petit utile.
Dans cette release de CPU, un noyau national. Un fournisseur souverain en arrière-guichet. Des appliquettes hexagonales. Et une facture particulièrement salée. L'équipe aujourd'hui, Solarus, Gaël et Daskritch. Notre invité, Bernard Benhamou, secrétaire général de l'Institut Souveraineté Numérique. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux. Hein ? Non, vous n'avez pas des smartphones nationaux, vous, encore. Ok, alors c'est parti. Bonjour à toi Solarus.
Salut.
Bonjour à toi Gaël. Félicitations d'ailleurs.
Merci.
Puisque c'est vrai que Gaël et Chris qui collaborent dans notre émission ont sorti un papier dans National Geographic, l'édition américaine, c'est pas mal.
Voilà, c'était pour le quart d'heure d'auto-promo. Mais...
Non, je suis super heureux d'être avec des journalistes de qualité. Ça nous change des deux abrutis, moi et Solarus, en question. Bonjour monsieur Benhamou, j'espère que vous allez bien.
Je vais très bien, merci.
Voilà. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui nous écoutes sûrement avec un ordinateur dont le système d'exploitation est conçu à l'étranger, géré par des sociétés ou des fondations américaines, donc forcément suspect. Ce qui est à la base sur lequel repose tout l'environnement de ton ordinateur, ton smartphone, ta console de jeu, ta box ADSL, etc., c'est le système d'exploitation. Il a en charge de discuter avec le matériel, de gérer les fichiers, de donner la main aux différents logiciels qui sont lancés et de protéger les données de chacun. Or, le fait que l'ordinateur soit contrôlé par un logiciel qui a été conçu hors du contrôle juridique français titille certains élus politiques. Et donc, profitant des discussions parlementaires du projet de loi pour une république numérique, a été rédigé un article 16 ter demandant à construire un système d'exploitation français utilisant des algorithmes de chiffrement dûment contrôlés et certifiés NF. Loin de nous de nous moquer d'une telle idée issue de l'Assemblée nationale. 575 élus du peuple ne pourraient se tromper. Non. Non, ne rions pas. Bon, faire un OS souverain. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte du travail de faire un système d'exploitation ? Dire que ladite proposition nous a laissé perplexes de rire est encore en dessous de la vérité. C'est même suite, en fait, à cet amendement que nous avions décidé de réouvrir le lourd dossier sur l'informatique d'initiative nationale avec le fameux cloud souverain de sinistre mémoire. Dans ce deuxième chapitre, cet or sera donc exclusivement consacré à en faire le devis. Oui, un devis. D'abord, prenons le noyau du système d'exploitation, aussi techniquement appelé le kernel, ce qui veut dire noyau en anglais. Un kernel est le logiciel qui est à la base de tout. C'est le premier logiciel, en fait, qui est lancé. Il gère les abstractions, il ouvre les canaux de communication avec le matériel, le réseau et entre les logiciels. C'est aussi lui qui distribue le temps de parole, de fonctionnement entre chaque logiciel. En 2008, la Linux Foundation estimait le coût de développement du kernel Linux à 1,4 milliard de dollars. Si ce kernel avait été écrit par une structure commerciale et où chaque ligne de code est facturée. Sachant qu'en 8 ans, il y a encore eu de très nombreuses améliorations à ce kernel et que ce coût prend compte l'effort entre 1994 et 2008, on peut facilement l'estimer actuellement à 2 milliards de dollars. Ensuite, il y a les utilitaires systèmes tels que les drivers qui permettent de gérer un écran ou une imprimante, ou ceux qui aident à gérer le système de fichiers, et les bibliothèques qui regroupent les éléments primitifs utilisés par la plupart des logiciels. Sous Linux, toujours, on fait appel aux utilitaires de la distribution GNU, mais il y a aussi les drivers matériels écrits par des fabricants comme ARM, Sony ou Nvidia. Et dites-vous bien que c'est bien parce que c'est Linux qu'ils ont bien voulu le faire. Les services de chiffrement de données pour les communications sur Internet sont soutenus par OpenSSL, qui vient d'un autre système d'exploitation, OpenBSD. Apple soutient depuis 20 ans le service d'impression, qui s'appelle CUPS. Et si nous devions mettre tout ensemble, on peut estimer facilement l'effort comme étant le double. On arrive donc à 2 plus 4, si je calcule bien, ça fait 6 milliards de dollars. Ensuite, si tu utilises un affichage fenêtré, de multiples drivers graphiques s'ajoutent encore, ainsi que la gestion de l'environnement de bureau, son design, la gestion du clavier, ah oui, on parlera du clavier souverain bientôt, et surtout de la multitude de cartes graphiques et de résolutions d'écran. Je te fais grâce de la traduction dans une autre langue que le français, on devrait là aussi arriver à 4 milliards de dollars. Donc, pour arriver à un système d'exploitation de base, sans client email, sans base de données, sans aucune suite bureautique, ni navigateur web, ni lecteur de médias, et même pas le jeu de patience ou de démineur. Eh bien, le total de la douloureuse avoisine, selon mes savants calculs, à 10 milliards, sans compter la TVA, sans même pouvoir en faire quoi que ce soit, puisque le pare-feu OpenOffice pour protéger Christine Albanel des cyberrhumes n'est même pas là. Et pour vous donner l'exactitude de mon analyse, et je jure que j'ai fait mon estimation de mon côté, le site Numérama a fait la même estimation de son côté à environ 1 milliard. Seulement, comme l'exécution du projet sera forcément confiée à nos glorieuses nationales de S2I, leurs commerciaux multiplieront par 10 la facture et le débordement prévisible sera d'environ x5. x5 de x10. Ah oui, tant qu'il y a de l'argent public, il y a des bénéfices à redistribuer aux actionnaires. Mais là, je serai mauvaise langue. Mais soyons honnêtes, des systèmes d'exploitation hexagonaux, on en a eu. Depuis le plan calcul en 1966, nous avions de grands constructeurs informatiques, comme par exemple Alcatel, la Radiotechnique, Goupil, Onewaybull et la Compagnie internationale pour l'informatique. Mais à l'époque, les ordinateurs n'étaient pas forcés de communiquer avec le reste du monde. On vivait bien à l'abri des tempêtes de virus et de cyberguerre sur notre atoll tout bronzé à Mururoa. Les ordinateurs Bulmicral carburés au prologue et les Thomson MO5, ah ben non, les édits ordinateurs Thomson avaient bien un OS national, mais le BASIC était signé Microsoft. Bon, allez, je déconne un peu, il y avait aussi un autre langage signé par un certain Daniel Glassman, mais bon, ça, vous verrez ça en cherchant bien. Daniel, si tu nous écoutes. Bref, démonstration par l'absurde que Super Dupont me savonne. Fini l'époque d'un particularisme national digne des phares jaunes et des télésécam. De nos jours, qui peut concevoir un ordinateur sans échanger entre nous des documents textes ou des feuilles de calcul, sans croiser les bases de données, au final sans Internet. L'ère de la culture informatique cocoricardière et isolationniste, elle a fait long feu de subventions publiques. Or, de nos jours, un service qui dépend du Premier ministre, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, offre une distribution Linux revue et annoncée comme sécurisée. CLIP. Oui, l'article 16ter a été rédigé en totale méconnaissance de ce qui se fait déjà par des personnes dont c'est le métier et qui sont missionnées pour ça. Mais peut-être que la députée PS Delphine Bateau, à l'origine de l'amendement, souhaitait que l'OS en question porte son nom. Comme ça, on ne dira plus que Windows est cassé, mais que Bateau a coulé. Enfant du futur immédiat, à l'heure où nous enregistrons cette release, le Sénat vient de retoquer l'article en question, ce qui fout en l'air mon émission, merci. Néanmoins, comme nous sommes assurés qu'on va probablement encore entendre parler longtemps de cette idée farfelue après son vote le 3 mai, il te faut retenir cette fable digne de La Fontaine. C'est pas parce que le client dit que c'est possible qu'il connaît son métier.
Me demande pas ce que je fabrique, je te répondrai n'importe quoi. J'en près des dunes, je te raconterai n'importe quoi. Ce sera bien.
Tombé pour la France, Étienne Daho, je suis désolé pour la mauvaise blague sur le jeu de mots d'une députée de la nation qui pourrait m'en vouloir. Et puis voilà quoi, mais bon, on est sur Radio Éphémère.
Ça aurait pu.
Ça aurait pu, hein. Gaël.
Alors, le 6 avril, comme tu le disais, la commission des lois du Sénat a étudié la loi numérique et a supprimé, entre autres, les amendements proposant la création d'un système d'exploitation souverain. Avec nous pour en discuter, au bout du fil, Bernard Benhamou, le secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique et délégué aux usages de l'Internet au ministère de la Recherche de l'Enseignement Supérieur.
CPU, carré et petit utile.
Monsieur Benhamou, bonjour, je vous ai entendu parler malgré notre virgule. Comme remarque.
Non, j'allais juste préciser que les fonctions de délégué auprès du ministère de la Recherche étaient mes anciennes fonctions.
Ah, d'accord. Bon, alors il va falloir mettre à jour plusieurs sites d'informations.
Absolument. Qui,
d'informations d'importance nationale, comme Wikipédia
et à France Inter.
Oui, c'est pas toujours juste.
À France Inter ou France Info, d'ailleurs, qui donnent la même information. Donc,
mais c'était vrai, mais ça ne l'est plus.
C'était vrai depuis combien de temps qu'on
j'ai quitté mes fonctions début 2014, donc ça fait quelques temps.
Ah oui, d'accord. Ok. Mmh. Ok. Eh bien, on ira faire un tour sur Wikipédia. Pour modifier tout
pour modifier la chose.
Bon, en tout cas, cette décision de la commission des lois, est-ce qu'elle enterre l'OS souverain ? Première chose.
Il est difficile de le dire parce que dans le système législatif français, a priori, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot sur les textes. Mmh. Donc, en théorie, j'aurais tendance à penser que c'est peu probable que cet amendement refasse surface. Je préciserai d'ailleurs, parce que vous avez dit effectivement qu'il prévoyait la création d'un OS souverain. Non, il prévoit la création d'un commissariat à la souveraineté numérique dont le but serait d'étudier la faisabilité d'un OS souverain.
Oui, mais justement, la commission en elle-même ne va pas être supprimée, mais c'est cette mission d'étudier la création
Les deux missions clés, qui est effectivement et l'OS souverain d'un côté et la cryptographie, donc le fait de créer des outils de chiffrement par l'État, ces deux questions-là ont été remises en cause.
Donc en fait, en l'État, on va créer un commissariat, mais qui n'a plus de mission.
C'est un peu l'idée.
C'était avant ou après la création d'une commission sur les commissions Théodule de l'Assemblée nationale ?
Je ne saurais dire. mais de fait, tout le monde, enfin tout l'écosystème numérique a quasiment fait une levée de bouclier suite à cet amendement, en faisant remarquer, comme vous le disiez dans votre introduction, que ça existait déjà, que c'était méconnaître l'existant, que c'était méconnaître la réalité industrielle par rapport à cela, et que l'issue d'un possible projet dans ce domaine serait plus qu'incertaine, elle serait quasiment vouée à l'échec, puisque le pilotage par une structure publique d'un projet aussi faramineux, vous l'estimez à plusieurs milliards d'euros, et c'est clairement ça. D'abord, un, l'État n'en a pas à l'heure actuelle les moyens, et deux, ce serait infiniment risqué dans le paysage industriel tel qu'il se présente.
Donc c'est une bonne chose d'avoir enterré cette absurdité, c'est ce qu'on lit un peu partout.
C'est une excellente chose que des sénateurs aient pris la peine de revenir sur un travail qui avait manifestement été hâtivement rédigé. Mmh. Et sur le principe, ça peut paraître sympathique, comme vous le disiez, pourquoi pas ne pas dépendre de grands acteurs américains dans ces domaines. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire avec des moyens et une stratégie, et pas effectivement de manière purement défensive, en disant « ils ont fait ça, nous faisons la même chose ». Ça a été fait il y a des années, ça a été fait en 2003. Pour un moteur qui se voulait être le concurrent de Google, qui s'appelait Quaero à l'époque, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, et qui a lui aussi fait couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup de subventions publiques pour, au final, n'être qu'un moteur parmi beaucoup d'autres dans le secteur. Donc c'est vrai que il serait dommage de ne pas tirer les enseignements du passé. C'est donc ce qu'ont fait les sénateurs, on ne peut que les en remercier.
Comment on explique quand même que des députés aient pu proposer ça ? C'est juste de l'empressement, le fait qu'ils soient débordés, et pourquoi pas une bonne idée sans creuser ?
ou ça veut dire plus de choses?
Ça montre beaucoup de choses. Ça montre que on a un déficit de maîtrise et de culture technologique au sein des représentations politiques, et pas que parmi les députés, c'est vrai, de beaucoup de patrons d'exécutifs locaux, c'est vrai de beaucoup de responsables même d'administration. Et dès qu'on rentre un peu dans des domaines un petit peu techniques, un peu complexes, évidemment, on sent ce manque de culture. Or, on le voit bien, pour les temps qui viennent, il faudra absolument un rattrapage, j'allais presque dire une formation permanente pour nos élus et nos décideurs, parce que ce qui se joue là, c'est plus uniquement, comme dans le passé, vous voyez, vous citiez l'époque héroïque de Bull et du plan calcul, c'est plus uniquement la filière informatique qui se joue là. C'est pratiquement tous les secteurs, on le voit tous les jours. Et donc aujourd'hui, avoir la maîtrise des outils technologiques, c'est avoir la maîtrise des transports, de l'énergie, de la santé bientôt, de pratiquement tous les secteurs économiques.
L'OS, ce n'est pas qu'un ordinateur, mais avant d'aborder ces sujets très, très importants, ces enjeux importants, j'ai quand même une remarque, parce que je ne sais pas si Madame Matteau a fait des recherches et s'est inspirée des modèles d'OS chinois, par exemple, ou russes, qui sont en train d'être, dit-on, mis en place. Mais
on en parlera tout à l'heure.
Si ces pays construisent ces OS souverains, pourquoi pas la France? Mettons de côté le coût, la faisabilité dans l'idée.
Déjà, le problème, c'est la dimension. C'est-à-dire envisager qu'on puisse créer une initiative de ce genre qui soit franco-française. Alors évidemment, vous me direz, si ça passe de l'Assemblée nationale, la logique voudrait qu'il se préoccupe d'abord de la France. Mais ils auraient très bien pu envisager un projet et une action de concertation avec nos partenaires européens, ce qu'ils n'ont pas fait. Et je crois que si on devait avoir une initiative intelligente sur les normes et les standards de l'Internet dans les temps à venir, comme l'ont dit à plusieurs reprises nos voisins allemands, c'est évidemment à l'échelle européenne qu'on doit s'inscrire. Ça ne peut pas être à l'échelle d'un des 28 pays de l'Union.
Mais donc un OS souverain européen, ça serait mieux? Ça serait bien?
L'idée, c'est de se positionner dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est les OS, en particulier pour les terminaux mobiles, tablettes, téléphones, bon, tablettes, smartphones. Bon. Mais dans un avenir très proche, il va y avoir énormément de travail sur les objets connectés. Et les objets connectés, ce ne seront pas des ordinateurs, comme le sont justement les téléphones ou les tablettes. Ce seront des objets qui seront des objets du quotidien. Ce sera des objets pour la gestion de l'énergie, des objets, y compris même, j'allais dire, enfin, évidemment, la télé connectée, la voiture connectée. Mais au-delà, ce sera les denrées alimentaires qui auront certainement droit à des services et à des capteurs connectés, les vêtements, les bâtiments et toutes sortes d'objets. Et c'est là que l'effort industriel européen doit se situer. Et si on loupe cette porte, si on loupe ce virage, ce que nous avons connu, c'est-à-dire en gros 20 ans ou 25 ans d'Internet dans lequel les Européens ont avec régularité perdu des marchés importants, y compris donc surtout la téléphonie. On a perdu Nokia qui s'est fait littéralement désintégrer en vol par Apple et par Google. Par définition, si on n'est pas présent sur ce segment-là, c'est effectivement 20 ou 25 ans qui s'inscrivent dans lesquels nous n'aurons tout simplement plus notre mot à dire dans l'ensemble des technologies.
Comment on explique qu'on en soit arrivé là alors que l'Europe est l'un des plus gros marchés consommateurs de technologies?
L'Europe est le plus gros marché de consommation des technologies. Et comme le disent justement certains rapports parlementaires, nous sommes devenus d'une certaine manière une colonie numérique de deux autres continents, à savoir les États-Unis et l'Asie. Comment on en est arrivé là? Il faudrait malheureusement beaucoup de temps, mais on peut dire justement que c'est ce manque de prise en compte des réalités technologiques par l'ensemble des décideurs qui a fait qu'on a laissé des grands acteurs historiques, dont les intérêts s'échelonnaient sur des dizaines d'années, en particulier les télécoms, mais pas que, prendre la main sur ces secteurs, là où on aurait dû favoriser, comme on le voit aux États-Unis, comme on le voit dans l'ensemble des économies qui fonctionnent, entre guillemets, dans ces domaines, on voit des petites sociétés qui progressivement créent des produits de rupture, comme on dit, et qui sont capables de menacer des sociétés centenaires ou même pluricentenaires parfois. Et nous, en Europe, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire, de faire en sorte que les petites deviennent moyenne, puis grande, puis très grande. Et on en a très très peu d'exemples dans ce domaine. On a BlaBlaCar en France qui est devenu effectivement un succès international, mais c'est quasiment tout. Il y a BlaBlaCar, il y a les Toulousains, j'ai plaisir à le rappeler puisque vous êtes à Toulouse, il y a les Toulousains de Sigfox qui font des réseaux d'objets connectés qui sont particulièrement intéressants. Ils sont en passe de devenir un vrai acteur de taille mondiale. Mais vous voyez, ça limite très très vite. Et il y a Criteo qui est parti aux États-Unis pour la publicité en ligne. Donc par définition, je veux dire, on n'a pas ces sociétés qui sont capables de devenir des géants mondiaux. Et c'est notre problème aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, on a pu aider les petites entreprises.
Voilà, aux États-Unis, il y a plusieurs mécanismes qui existent en termes de financement. Alors évidemment, vous avez des fonds beaucoup plus grands et beaucoup plus riches pour financer le développement de ces sociétés. On a un mécanisme que nous devrions avoir en Europe et que nous n'avons pas, d'orientation des commandes publiques vers les petites entreprises. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en gros, pour toute commande publique, il y a entre 15 et 18% de la commande qui est nécessairement allouée à des petites entreprises. Ça n'existe pas en France, ça s'appelle, le terme technique c'est Small Business Act. C'est une loi qui a été passée aux États-Unis. Nous devrions avoir ça en Europe, nous ne l'avons pas créé, beaucoup de pays étaient favorables, mais n'ont pas poursuivi pour que ça voie le jour. Et ça nous manque terriblement parce que beaucoup d'industriels du secteur vous diraient qu'une entreprise, quand elle se crée, elle a autant besoin de clients qu'elle n'a besoin de financement. Et si elle n'a pas de clients, elle ne sait pas s'orienter pour évoluer. Et donc l'intérêt, c'est que la commande publique, c'est un des leviers fondamentaux qu'on n'a pas réussi à développer dans ce domaine aussi. Et il faut dire les choses, parce que on ne voulait pas, certains ne voulaient pas remettre en cause le flux financier que représente la commande publique vers les grands groupes industriels qui voyaient d'un très mauvais œil le fait qu'on puisse dire maintenant on va enlever 15 ou 20% des budgets que vous recevez de l'État pour les attribuer à des toutes petites sociétés. Et globalement, ça ne s'est pas fait et c'est une lacune que nous payons lourdement d'année en année.
Mais ça vaut que pour la France. Comment ça se passe en Allemagne ou en Angleterre, c'est la même chose?
Alors, le mécanisme Small Business Act n'existe pas de manière globale au niveau européen, mais il est vrai qu'on a un paysage industriel, par exemple pour ce qui est de l'Allemagne, où on a beaucoup plus d'entreprises dites de taille intermédiaire, on dit les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et donc en gros, leur mécanisme industriel, leur mécano industriel n'est pas du tout le même que le nôtre. Nous, c'est des très gros, et beaucoup de très petits. Eux ont effectivement toute une panoplie d'acteurs intermédiaires qui font que leur appareil industriel est resté très puissant et ils en profitent pour les filières dans lesquelles ils ont beaucoup investi. Mais je précise que ni l'Allemagne ni l'Angleterre n'ont produit véritablement des géants mondiaux dans le domaine d'Internet. Même si le web a été créé par un Britannique, Tim Berners-Lee, en Europe, il y a plus de 25 ans maintenant. Mais il n'empêche que l'essentiel de ce qui s'est fait d'innovant et de grande taille s'est fait malheureusement aux États-Unis et en Asie, en Chine en particulier et en Corée.
Il y a quand même SAP en Allemagne, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'innovation ne se décide pas en politique et elle ne peut venir que de petites structures par rapport à des très grosses, parce que justement il y a moins de blocages au niveau de quoi, de la hiérarchie, du marché.
Je reviendrai sur votre phrase. L'innovation ne se décide pas en politique, là on en est pleinement d'accord. En revanche, elle peut s'accompagner par l'action politique. Et ce que font très bien les Américains, jusqu'à une période récente, je dirais jusqu'à ce qu'il y ait ce conflit énorme autour de l'affaire Snowden et maintenant autour du FBI et Apple, globalement, l'action du gouvernement américain était une action tout entière orientée vers l'aide à ce secteur parce que les Américains savent qu'il est vraiment essentiel pour toute l'industrie. La preuve, c'est qu'Apple est la première capitalisation, Google maintenant. On voit bien effectivement qu'il y a une synergie entre les acteurs publics et les acteurs privés, y compris par exemple le ministère de la Défense américain, qui aide à incuber, comme on dit, beaucoup de technologies dans la robotique, dans les nanotechnologies, etc., et qui peuvent après se dérouler dans le public et pas uniquement dans le domaine militaire. Cette stratégie de politique industrielle, les Européens ont fini par y renoncer en se disant « Laissons le secteur privé faire et il fera très bien sans nous ». On voit bien que ce n'est pas aussi simple que ça, c'est ce que je vous disais sur la commande publique. Il y a une interaction, il y a des passerelles que l'on n'a pas suffisamment fait jouer. Et globalement, il y a aussi effectivement le fait qu'en Europe, on respectait, et alors ça change très 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 lentement, on respectait davantage les énormes groupes industriels dans lesquels les gens faisaient des carrières pendant 30 ans ou 40 ans. Et aller pour un brillant chef d'entreprise, aller créer sa start-up, ça paraissait presque bizarre. C'était plus logique de rejoindre un grand groupe. Maintenant, les choses évoluent, mais là encore, c'est un changement culturel qui prend du temps.
Vous parliez d'accompagner l'innovation en Europe. On a l'exemple, par exemple, de Raspberry Pi, qui est britannique, qui est plus ou moins accusé de défiscaliser au travers de l'île de Man. Est-ce que la France, elle a peut-être pas un problème de fiscalité pour investir dans les nouvelles technologies face à des pays qui effectivement pensent ça depuis plus longtemps.
ce n'est pas que la France, c'est là encore, effectivement, l'ensemble des pays européens qui ont commis des erreurs majeures en laissant, par exemple, l'Irlande ou le Luxembourg pratiquer ce que l'on appelle du dumping fiscal, donc de l'aide à l'optimisation fiscale pour les grands groupes, ce qui fait que l'essentiel des grands acteurs, les GAFA, comme on les appelle, Google, Apple, Facebook, Amazon et d'autres, ont leur siège dans ces pays à moindre fiscalité en Europe. Il est évident que si on veut être sérieux dans le domaine du développement de ces secteurs, il nous faudra harmoniser, ce qui veut dire désavantager l'Irlande et quelques autres pays qui ont obtenu, à une époque où ils étaient en grande crise, ils ont obtenu des avantages qui maintenant se retournent contre l'ensemble des pays européens quand on voit effectivement le manque à gagner fiscal que ça représente pour l'État français, pour l'ensemble des États européens. Donc là-dessus, on ne pourra pas faire l'économie d'une vraie grande harmonisation fiscale pour créer ce qui est maintenant pratiquement un rêve, vous voyez, une sorte de créature mythique, le grand marché unique du numérique européen, le digital single market, comme on dit là-bas, et pour l'instant, on en est très loin.
On en est très loin et on reviendra là-dessus juste après une petite pause musicale.
Je t'en prie, fais-moi confiance. Encore 5 secondes, encore une heure, même si je merde en permanence. Ça ira peut-être mieux ailleurs, car je serai en permanence ton angélique enfant de cœur, la coupe aux lèvres de préférence, le poitrail nu tirant plein cœur. Regarde-moi sans défiance, sans coup de sonde, sans froideur, oh ma belle innocence qui avance à coûte que d'heure, même si c'est la crise en permanence et que nous sommes complètement chômeurs, on trouvera la solution, je pense. Allez, avance, n'aie pas peur, c'est au fond de tes yeux. Au fond de tes yeux, regarde un peu la France. C'est magnifique, non, toute cette torpeur, tous ces anciens de l'adolescence, immobiles devant Pasqua l'horreur. C'est au fond de tes yeux. 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 Que je foutrais le feu. Que je foutrais le feu. Et l'on aura si chaud. Qu'on dira merde au bon Dieu, on dira merde au bon Dieu, et surtout à Jean-Paul II, et surtout à Jean-Paul II.
Miossec, regarde un peu la France, c'était son premier album. On reprend donc avec Bernard Méhamou.
Et donc, juste avant la petite pause musicale, on parlait du digital market européen. Alors, et on disait que c'était un doux rêve encore. Quelle est la situation actuelle et pourquoi il faudrait aller vers ça? En quoi ça aiderait le numérique européen, en fait?
Il faudrait aller vers ça parce que quand vous développez une activité, je citais tout à l'heure Blablacar qui était venu en parler devant l'Assemblée nationale il y a quelques mois.
Donc vous avez été actionnaire, si je ne me trompe pas.
Non, pas actionnaire. Non, j'ai aidé dans le cadre des projets que je dirigeais au sein du ministère de la Recherche à leur obtenir parmi les tout premiers financements qu'ils ont eus. Non.
Je précise, il y a quand même un petit lien, donc je précise.
Voilà, non, tout à fait. Non, je les connais bien, mais la particularité, c'est qu'ils expliquaient la complexité pour eux. Ils disaient, pour nous, l'Europe, c'est 28 marchés différents, 28 législations différentes, 28 règles fiscales différentes, et donc, sans parler même des problèmes de linguistique et donc de maîtrise des différents langages, mais fondamentalement, si on ne fait pas en sorte que cette unification du droit de la fiscalité européenne sur ces questions-là soit mise en place, on continuera de se battre avec une main attachée dans le dos, pour dire des choses comme ça. Et c'est vrai que pour des entreprises qui se battent sur des secteurs extraordinairement concurrentiels, des secteurs d'une grande brutalité, c'est-à-dire qu'on voit se créer et disparaître des sociétés d'une manière extrêmement rapide, si on n'est pas en mesure de faire en sorte de les aider à ne pas se ralentir au tout départ de leur croissance, alors évidemment, les Uber, les Tesla, les Netflix et autres Airbnb continueront de se développer au-delà, effectivement, de ce que l'on connaît aujourd'hui, et on voit à quel point ils sont puissants aujourd'hui.
Parce que là, vous parliez de la nouvelle vague numérique américaine. Est-ce qu'on est déjà bouffé, mangé par cette deuxième vague, qu'il faut viser la troisième, du coup?
Ce que je commençais effectivement à évoquer tout à l'heure, c'est que nous devons penser à la continuité et à l'évolution des technologies. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des sociétés qui agissent sur, en gros, les ordinateurs et les tablettes et les smartphones. Il nous faut réfléchir aux services de demain dans tous les secteurs, la maîtrise environnementale, la maîtrise de l'énergie, la santé auprès du patient, les transports et en particulier la voiture électrique, voire la voiture sans pilote. Il nous faut réfléchir à ces nouvelles générations de technologies. Et c'est vrai qu'elles sont très différentes parce qu'elles demanderont beaucoup plus d'argent au départ parce qu'il est question de matériel et pas simplement de logiciel. Elles demanderont un effort de R&D, donc de recherche et développement important. Et donc, si nous, Européens, voulons marquer notre empreinte sur les quelques secteurs clés dans ce domaine, moi j'en vois trois en gros. Je vois la santé, qui va être totalement révolutionnée dans les années à venir par justement les outils de suivi et de prévention et de diagnostic que possédera la personne et qui effectivement ne seront plus dans une structure hospitalière ou dans un laboratoire médical. Et il y a donc la santé comme élément prioritaire, il y a l'énergie au sens large, y compris donc la maîtrise de l'énergie, la maîtrise environnementale, tout ce qui sera capteur permettant effectivement de mesurer et de mieux prendre en compte notre environnement, et enfin les transports avec justement la voiture électrique, la voiture sans pilote, et toutes les formes de transport qui existeront en particulier basées sur l'énergie électrique.
Mais alors comment on regagne la souveraineté européenne, on va dire, est-ce que c'est juste en proposant des services des entreprises, ou est-ce qu'il faut faire plus pour regagner...
Il faut agir à trois niveaux. Comme toujours, quand il est question d'Internet, ça ne peut pas être fait à un seul niveau, ça doit être fait à trois niveaux. Il y a trois niveaux qui sont le niveau d'encadrement législatif, forcément. Je vous parlais d'encadrement fiscal. Mmh. On pourrait parler de tout ce qui sera effectivement aide apportée par la puissance publique au développement de ces acteurs. Et donc, je vous parlais du Small Business Act, donc de la commande publique orientée. Mmh. Donc ça, ce sont des dispositifs juridiques. Il y a un autre aspect qui est l'aspect technologique, en particulier ce que nous évoquions là aussi sur les normes et les standards. Alors ça paraît très sérieux, ça paraît très technique, mais si nous ne sommes pas davantage présents, ce que rappelait d'ailleurs le vice-chancelier allemand quand il est venu en France il y a quelques mois, Sigmar Gabriel, il dit nous devons être là où s'élaborent les normes et les standards de l'industrie de demain. Si nous n'y sommes pas, les Américains l'ont fait et l'ont montré avec l'affaire Snowden, ils sont capables effectivement de créer l'ensemble de ces normes et de les dévier à leur profit, y compris les normes de sécurité et de chiffrement, donc les normes de crypto, comme on dit, qu'ils peuvent effectivement utiliser à leur profit pour après espionner, pas simplement les citoyens, mais aussi les entreprises.
En même temps, dans l'envie de l'OS souverain à la française, il y avait aussi cette envie, ce fantasme peut-être de contrôle étatique dans lequel on aurait pu rentrer pour...
Voilà. Oui, et le contrôle étatique sur la crypto, le problème, c'est que c'est aussi, et on l'a vu avec justement l'affaire du FBI et d'Apple, c'est une très mauvaise, apparente bonne idée.
Pourquoi ?
C'est le principe de la fausse bonne idée. Je vous explique. Si vous créez des backdoors, parce que le mot qui a été employé, c'est backdoor, c'est-à-dire des portes dérobées dans l'ensemble des téléphones, par exemple, ça veut dire que des hackers, et croyez bien qu'il y en a des millions aujourd'hui, et quand je dis des millions, le chiffre est exact, c'est-à-dire qu'il y a des populations capables de rentrer dans des phénomènes de piratage qui sont vraiment massives, en particulier en Chine, en Russie et ailleurs. Vous leur donnez un espèce de chiffon rouge agité devant les yeux en leur disant « Courez, vous êtes sûr qu'à un moment donné, vous finirez par la trouver. » Et ils la trouveront. Et donc, faire en sorte que tous les téléphones qui sont utilisés par les entreprises, par les administrations, par les agences de sécurité, par les ministères de la Défense de tous les pays, puissent être progressivement attaqués et, au final, ouverts pour récupérer leurs informations, c'est la pire des choses. Je dirais même mieux, Ceux qui en parlent le mieux sont les anciens patrons des agences de sécurité américaines. Les nouveaux, c'est-à-dire ceux qui sont aux commandes aujourd'hui, sont obligés de répondre à la demande du politique, à savoir l'administration Obama. Mais ceux qui étaient auparavant à la CIA, à la NSA, au département Homeland Security, enfin toutes les agences de sécurité disent que ce serait une hérésie, ce serait une absurdité totale que de créer cette vulnérabilité dans nos systèmes. Ce serait un cadeau absolu fait à toutes les mafias du monde, à tous les groupes terroristes du monde. C'est la pire des choses. Tous les experts sont parfaitement d'accord là-dessus, mais la demande politique était telle. Évidemment, l'administration Obama a dit qu'il faut aller vers la création de ces systèmes. On voit que c'est maintenant un vrai débat, parce que les gens se rendent compte que ce n'est pas aussi simple que ça en avait l'air, que ce n'est pas uniquement pour résoudre telle ou telle enquête terroriste aux États-Unis, mais que ça aurait des conséquences sur le long terme. Vous voyez, il faut jamais, dans nos domaines technologiques, on dit toujours qu'il ne faut jamais substituer l'urgent à l'important. Et là, on a vraiment substitué l'urgent, c'est-à-dire la demande sécuritaire, à l'important, c'est-à-dire la protection des intérêts stratégiques de l'ensemble de nos pays, c'est-à-dire pas uniquement les États-Unis, c'est l'ensemble des pays européens, l'ensemble des pays qui utilisent ces technologies.
Est-ce que vous avez l'impression de prêcher dans le désert, malheureusement ?
Oh non, 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 justement pas. Je dirais, on a commencé par parler effectivement de cet amendement qui a été retoqué par le Sénat donc sur l'OS souverain, mais on voit bien que la prise en compte de ces questions, la simple apparition du mot souveraineté numérique, puisque notre institut a pour but justement d'aider à comprendre ces enjeux au niveau européen, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue technologique. Eh bien, ces simples mots, souveraineté numérique, sont montés en flèche dans l'ensemble des médias, ces 12 ou 18 derniers mois. C'est-à-dire, il y a 2 ans, personne ne comprenait même ce que signifiait ce mot souveraineté numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention politique qui ne revienne sur la question dès qu'il est question d'industrie. Il n'y a pas d'autorité de régulation comme la CNIL cette semaine encore, qui s'est prononcée contre justement les portes dérobées, donc reprenant justement ce débat et disant que c'était un enjeu de souveraineté numérique. Donc globalement, je dirais qu'il y a une prise en compte qui monte. Mais il est vrai, et c'est ce que nous disions auparavant là aussi, c'est qu'il faut aller très très vite, parce que les acteurs dans ces domaines évoluent et font évoluer leurs solutions extrêmement vite, et il faut une prise en compte nationale et européenne dans ce domaine pour déterminer un avenir européen où nous ne serons pas que, comme le disait justement un rapport, qu'une colonie numérique de 2 autres continents.
Il y a des exemples à suivre en Europe, je pense aux Pays-Baltes, qui sont très avancés sur le numérique, plus que
absolument,
nous.
Absolument. L'Estonie est remarquable sur les questions de technologie, mais il n'y a pas que, je dirais que nos voisins hollandais, proches voisins hollandais, ont montré effectivement qu'ils étaient très attachés justement à ces notions de protection de leur infrastructure industrielle, et donc refuser cette notion de porte dérobée et d'atteinte au chiffrement pour les entreprises, parce que les plus en danger, parce que tout le monde a parlé avec l'affaire Snowden des citoyens qui étaient écoutés, qui étaient surveillés, ce qui est un vrai problème évidemment de liberté publique, mais ceux qui ont porté plainte, ceux qui ont été le plus atteints, sont les grandes entreprises, et l'ensemble des entreprises qui pouvaient se voir siphonner leurs données par le biais effectivement des grandes écoutes de la NSA. Donc par définition, je dirais qu'on a quelques pays, et en particulier l'Allemagne là-dessus, qui a créé effectivement une réglementation intéressante sur le fait que les données des citoyens européens les données des citoyens allemands ne pourront plus être traitées en dehors du territoire de l'Union européenne à l'avenir. C'est-à-dire, en clair, ne pas permettre que Google, Amazon, Facebook et quelques autres puissent aspirer les données qu'ils ont captées sur l'ensemble de leurs usagers et les traiter uniquement aux États-Unis sous, entre guillemets, bannière américaine. Et donc, il faudra à l'avenir qu'on ait un droit européen plus fort où on dise, nous souhaitons que l'ensemble des données des citoyens, des entreprises, des États puissent résider, c'est le terme qu'on emploie, puissent résider sur le continent européen et être traités avec nos lois, nos principes, nos valeurs de protection des libertés. Parce que ce qui se joue là, c'est beaucoup plus que des principes juridiques comme ça lointains, c'est notre avenir économique, notre avenir stratégique à l'échelle des 20 ou 30 prochaines années.
C'est ce qu'on appelle le safe harbor.
C'était effectivement la remise en cause du safe harbor qui est maintenant renégocié au niveau européen et qui porte un nouveau nom qui s'appelle Privacy Shield, le bouclier de la vie privée. Et le problème, c'est... Non, il ne règle rien, pour être tout à fait sincère.
Voilà. On est bien
il ne règle rien. Et non, et justement, et c'est pour ça que la CNIL et sa présidente Isabelle Falco-Pirotin a eu l'occasion de rappeler qu'elle était hostile à ce nouveau règlement, ce nouvel accord, et qu'elle voulait effectivement d'autres conditions de sécurité par rapport aux données, voire même peut-être, c'est ce que nous souhaitons, nous, au sein de l'Institut, c'est qu'on a justement vers la logique allemande qui est de dire les données doivent résider en Europe. Et ne doivent pas, parce que le principe du Safe Harbor, c'était permettre aux entreprises américaines de rapatrier leurs données chez eux. À l'avenir, je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un règlement européen qui porte un autre nom, on appelle ça Data Residency, c'est-à-dire la résidence des données en Europe, pour être certain qu'elles suivent bien et qu'elles sont bien soumises à nos principes, nos lois, et pas aux lois américaines.
Donc alors, si je résume, on était colonisé numériquement, mais on ne le savait pas. Maintenant, on l'est toujours, mais on en a conscience. Et peut-être qu'un jour, on va faire changer les choses.
C'est la base de tout. C'est-à-dire se rendre compte de notre vulnérabilité. Et c'est ce en quoi je tiens à rappeler, effectivement, tout ce que nous devons à un certain Edward Snowden. Parce qu'en prenant des risques quasiment pour sa vie, il a rendu un service inestimable à l'ensemble des pays, y compris même aux États-Unis, d'ailleurs, même s'ils ne le reconnaissent pas. Mais il a rendu un service inestimable en permettant à l'ensemble des opinions publiques, de se rendre compte de ce qui se jouait. Et ce qui se jouait, c'est leur avenir total, c'est-à-dire avenir sécuritaire, avenir vie privée, avenir économique, avenir politique, sur le contrôle des populations, puisque des outils comme les outils de NSA peuvent aussi servir à contrôler l'opinion publique et à faire évoluer l'opinion publique dans un sens qu'elle n'aurait pas eu forcément si on n'avait pas eu d'informations sur elle. Donc là-dessus, je veux dire, on se doit de bien se rendre compte que là, on a une chance. Et cette chance, il ne nous faut pas la gâcher parce que les fenêtres de tir par rapport effectivement au numérique ne seront pas si nombreuses à l'avenir et qu'on a en gros entre 5 et 10 ans pour réorienter l'appareil industriel et technologique européen pour ne pas être effectivement soumis à un pompage massif de nos sociétés qui aujourd'hui n'ont comme espoir que de se faire racheter par Google ou par Apple pour effectivement continuer à croître. C'est un avenir qu'on peut et qu'on doit essayer de remettre en cause.
Okay. Donc vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez convaincre les
politiques. Absolument. Absolument.
Bon courage. Merci beaucoup, monsieur Benamou. Au revoir. Thank you.
Malheureusement, ça n'est pas crédité, mais en fait, voilà, c'est une vidéo où le type prend les samples de base du set de base de Windows 95 et il lance le logiciel d'enregistreur en fait de Windows et il se sert en fait des possibilités très limitées d'édition qui est à l'intérieur. Donc il y a une vidéo où on voit la performance. La vidéo est un peu remontée, mais voilà, il utilise 8 samples de base et la musique d'ouverture de Windows 95. Je suppose que vous savez qui c'est qui l'a composé. Il y en a qui tustent sur le conducteur, c'est Brian Eno. Ah. Voilà. Donc le son qui vous hérisse, ben voilà, c'est Brian Eno qui l'a composé. Ben ouais, bon ben, ça arrive quoi. Et est-ce qu'on peut parler de Windows nationaux et tout? Microsoft fait ce qu'on appelle une distribution, hein, c'est-à-dire que on fait une version du système d'exploitation.
Mais tu vas pas spoiler ma chronique.
Avec du package, rien que pour d'autres. C'est ta chronique là?
Oui.
Solarus.
Bien, camarade de Screech, on va parler des OS nationaux.
Chef, oui, chef.
Donc, le système d'exploitation, bah, c'est la base de l'informatique moderne. Sans lui, vous ne feriez pas tout ce que vous faites avec votre PC, votre smartphone. Sans vous faire un historique complet exhaustif des OS, les premiers à avoir émergé à l'ère moderne sont Unix et DOS. Unix, par son caractère universitaire, s'est répandu dans le monde entier. Les établissements d'enseignement, entre autres l'université, étant quasiment les seuls à pouvoir se payer le coût exorbitant de la licence, sans parler des salles entières remplies d'armoires nécessaires au matériel pour le faire tourner.
Puis surtout, c'était prévu pour plusieurs utilisateurs.
Voilà. Et donc il y avait Unix et puis il y avait DOS donc qui deviendra Windows et qui lui s'imposera plutôt dans les entreprises et dans les foyers grâce notamment au partenariat avec Intel. Et donc au niveau mondial, on vit s'établir une monoculture des OS, ou plutôt une duoculture. Quel que soit le pays où vous rendez, les ordinateurs seront soit sous Windows, soit sous Unix. macOS, X et Linux étant des Unix plus ou moins.
Allez. Plus ou moins.
Voilà. Plus ou moins. Mac OS X, c'est un BSD. Hein,
ouais. Darwin.
C'est
et
pas
tout
POSIX.
Ça,
hein, bon, c'est pas POSIX du tout.
On en fera une émission. Et donc, à l'époque où les OS géraient que de pauvres lignes de commande, les gouvernements n'avaient pas tellement d'intérêt à se mêler de la nationalité ou de la société qui contrôlait ces OS. Mais depuis que les ordinateurs gèrent littéralement notre vie et stockent toutes nos données personnelles, le sujet est devenu sensible et le contrôle partiel ou total d'un OS représente une mine d'or en termes d'informations et de données personnelles. Ainsi, on ne s'étonnera pas de voir la Corée du Nord et la Chine comme pionniers du domaine. Pour la Corée du Nord, nous avons Red Star OS, Punggumbyol en nord-coréen, vous excuserez mon accent, développé depuis 2002 par le Korea Computer Center. Il s'agit d'un Linux dont l'interface graphique ressemble beaucoup à celle d'un Mac. Difficile d'en savoir plus, et si vous prenez l'envie de l'essayer, sachez que la variante nord de la langue coréenne est assez différente de sa variante sud.
Alors,
bon courage.
Il y a un test complet qui a été fait, c'est vrai qu'il est très difficile à obtenir. Il y a donc, depuis qu'il y a des voyages en Corée du Nord et qu'il y a des journalistes sur place, quelqu'un a réussi à en avoir une distribution, il l'a installé dans une machine virtuelle, il ne l'installait pas sur un vrai PC, parce que par exemple, toute vidéo que vous essaierez de lire ou tout fichier que vous créerez sont marqués en fait avec un identifiant unique. Ça, bien évidemment, pour essayer de choper soit les dissidents ou toute personne qui pourrait être critique, soit pour choper ceux qui essaieraient de regarder les séries décadentes sud-coréennes. Et en fait, là-bas, effectivement, il y a un internet qui est très fermé, mais il y a tout un trafic, ce qu'on appelle le dark web, avec des clés USB, où les gens s'échangent les films comme ça et qui là sont... ils sont sur les dents pour essayer de les choper à chaque fois.
Internet en Corée du Nord, officiellement, c'est un parc de 30 cartes SIM. C'est ça. Pour parler de la Chine, donc, qui suit un peu la même voie, donc, on a Red Flag OS, créé en 99.
Qui lui est librement trouvable, par contre.
Voilà, qu'on peut trouver librement, donc, qui est une distribution Linux, en fait, qui est la première distribution Linux aux couleurs du pays de Mao, créée par la Chinese Academy of Science, puis éditée par une société commerciale, Red Flag Software, soutenue par un fonds d'investissement du ministère de la Défense.
Si je me souviens bien, c'était basé sur Red Hat, d'ailleurs.
Oui, plus ou moins sur des vieilles versions de Red Hat. Le projet prit fin en 2014, et c'est à ce moment-là qu'apparut NeoKilin, promu par le gouvernement chinois, et basé sur Ubuntu. Développé par la National University of Defense technologie, le projet s'inscrit dans la volonté de rendre la Chine technologiquement indépendante de l'étranger.
Mmh. Il y a un autre OS dont tu ne vas pas parler, qui est celui de la Russie. Et les Brésiliens aussi en ont un, si je me trompe.
Ouais, alors il faut voir dans quelle mesure, effectivement, ce sont des OS souverains, c'est pas juste des distributions rebrandées. Voilà, c'est... La question aussi, c'est que chaque pays a plus ou moins sa distribution nationale. Et donc la France, alors, comme toutes les dictatures socialistes...
Tout de suite.
La France dispose de son propre OS. Bien sûr, il y a eu des distributions Linux créées en France, comme Mandriva, Linux Mint ou Mageia, mais elles ne sont pas souveraines, car gérées par des entreprises ou des associations. Non, celle qui nous intéresse, c'est Clip, une distribution française gérée par l'ANSSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques, à destination des administrations du pays. Difficile d'en savoir plus, la sécurité par l'obscurantisme étant le dogme encore majoritaire en France.
Je peux pas te laisser dire ça. Ce qui paraît, elle est disponible. C'est juste qu'on l'a pas trouvée.
Et ben, pourtant, j'ai cherché.
Mais si elle est disponible, pourquoi on passe des accords avec Microsoft, par exemple, pour l'éducation
Alors ça...
Problème de gros sous.
Il y aurait une histoire, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler tout à l'heure, sur le retrait de la préférence logicielle libre.
On en reparlera sans doute
après,
plus tard.
Oui, non, mais il a encore une vingtaine de lignes à lire.
Oui, donc...
Non, je parlais d'une future émission, en fait.
Mais donc, cette souveraineté, elle ne vient pas que du logiciel libre. Ainsi, Microsoft vient tout juste de conclure un accord avec le gouvernement chinois sur la mise en place d'un Windows 10 spécifique au gouvernement chinois. Et par gouvernement chinois, entendez aussi les citoyens. Windows 10, Xuang Gong Bang, pardonnez mon accent chinois qui est pire que mon accent anglais ou mon accent nord-coréen. En effet, Windows 8 avait été censuré dans l'empire du milieu, Microsoft refusant de coopérer et de communiquer sur les données qu'il récupérait. On peut dès lors suspecter Pékin d'avoir négocié l'installation de mouchoir. Pas
traiter le red flag de mouchoir, s'il te plaît.
Donc, d'avoir négocié l'installation de mouchoir en complément de son fameux grand firewall. Ah. Et c'est là que le bât blesse pour les OS souverains, car qui dit souveraineté dit mission régalienne. Et parmi elles, les missions de police et de renseignement qui sont beaucoup plus souveraines que votre vie privée.
Alors, juste une chose, tu savais que, en fait, le grand firewall donc, qui protège les citoyens chinois de l'influence occidentale néfaste et de la pornographie, il ne marchait pas sous IE7 et IE8. C'était l'un des points importants de négociation qui était assez tendu, en fait, avec Microsoft.
D'accord,
ça a été très vite comblé après.
Oui, bizarrement. Voilà. Et donc, de là à y voir le principal intérêt d'un OS souverain, la question est ouverte. Car entre autarcie numérique et pouvoir arbitraire, il va peut-être falloir ressortir la guillotine numérique pour couper la tête de l'OS souverain.
On va avoir des emmerdes si tu dis ça.
On tape souvent quand même beaucoup sur l'État, et je ne suis pas le dernier, mais il y a quand même une question qu'on pourrait poser, c'est est-ce qu'il faut mieux un autoritarisme d'État ou un endroit où l'État défend une espèce d'espace public où l'État de droit est important, ou bien faut-il mieux des entreprises qui aient ce rôle-là. Je veux dire, moi, je ne suis pas plus rassuré de donner tous mes éléments de ma vie privée à Facebook, par exemple.
La différence, c'est que tu choisis d'être sur Facebook.
Ouais, mais l'État
est quand même... Tu ne choisis pas l'ensemble des données ou la manière dont l'État impacte ta vie numérique.
L'État est garant... de la sécurité, d'intérêt public, par exemple, quoi. Pas Facebook. Facebook, c'est quand même un intérêt privé, à la base.
C'est vrai.
Donc
c'est
le débat se pose, tout n'est pas à jeter.
Mais depuis Snowden, l'une des questions qui est les plus hallucinantes, c'est que justement, les GAFAM que tout le monde brocarde, etc., or, il suffit d'interroger, on l'a fait dans une émission avant CPU, sur une crypto-partie qu'on a enregistrée au dernier THSF, avec l'un des formateurs en sécurité numérique à Reporters sans frontières, il dit, c'est au contraire eux qui sont les meilleurs garants de la vie privée des gens, quand on parle de la Tunisie, quand on parle de certains pays, effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus invasifs.
Ouais, et puis, on parlait de la CNIL tout à l'heure. Il faut regarder, effectivement, comment est utilisée la CNIL. À la base, la CNIL avait été créée pour contrôler l'État, après le scandale du fichier Safari. Elle a été depuis retournée contre les entreprises. Et elle fait sa mission de protection des données personnelles auprès des entreprises, elle le fait plutôt bien. Mais du coup, elle a complètement délaissé, elle a complètement été délestée de son pouvoir.
Elle a été délestée plus de... C'est pas elle qui l'a délaissée, voilà, c'est que depuis 2003, effectivement, ça lui a été détricoté.
On a retourné la CNIL contre les entreprises, qui fait un boulot plutôt louable.
Franchement, très bien. Ouais.
Voilà. Mais elle a été délestée de son pouvoir de contrôle de l'État, et donc il n'y a plus... Il n'y a plus vraiment d'acteurs sérieux qui contrôlent l'État en matière de données personnelles. Donc, dans ce contexte, moi, je n'ai pas confiance.
Regarde un peu la France, non ? On va se passer une journée. Jour en France, Noir Désir, 666-667 club, et c'était en 98. Et c'est vrai que finalement, l'une des questions n'est peut-être pas de créer depuis zéro et tout ça, mais peut-être, regardez, l'une des plus grandes réserves que l'on a, c'est les étudiants qui sortent d'école d'informatique et qui essaient de se faire une expérience, et plutôt que les envoyer dans des grandes entreprises de services numériques qui vont vendre leur journée de stage comme étant des experts de 5 ans dans des langages ésotériques. C'est plutôt on les mettait sur des projets open source qui existent déjà. Et tout simplement parce que les projets open source, il y a le kernel Linux, il y a Xwindow, il y a justement tous ces projets-là. Et quand on essaie d'y contribuer dans le code, eh ben, on est très vite noté et accepté ou non accepté, justement, par les mainteneurs de ces projets-là. Et peut-être que, justement, ce serait la meilleure expérience qu'on puisse donner à des étudiants. Après tout, on a parlé, par exemple, de PrestaShop, qui est issu d'Epitech en Alsace, VLC, qui est issu de Français. Il y a encore beaucoup de projets, beaucoup de places à se faire. C'est difficile, c'est à la dure, mais
et pourquoi ils viennent pas alors parce qu'ils connaissent
parce qu'ils sont pas c'est pas leur là où les profs et où le système les impose. On dit non non, on va faire un stage dans une web agency ou va faire un stage dans une 2S2I. Ouais. Et ça crée une dissymétrie du travail peut-être.
C'est clair qu'il faut sortir effectivement du schéma où les étudiants se retrouvent dans une grosse boîte et puis on les met à trois sur un seul projet en espérant que ça remplace un salarié. Non, c'est clair que voilà, ça peut être une bonne école, le Chalib.
Surtout que tu es signé et tout le monde est à la même échelle et tu vois immédiatement le résultat.
Pour autant, tous les projets libres, je pense, n'ont pas la mentalité pour accueillir.
Tu penses à Linus Torvalds ?
Ouais,
il est trop dur.
Typiquement, les mailing lists de Linux où tu te fais insulter au moindre problème, c'est peut-être pas le meilleur climat. Après, non, je pense surtout que. Comme dans tout groupe, en fait, que ce soit une entreprise, une asso, un groupe informel, il y a une mentalité qui est plus ou moins inclusive, c'est-à-dire qui va plus facilement ou pas intégrer des nouveaux. Et c'est le problème pour moi de beaucoup de l'expérience que j'en ai, hein, de beaucoup de groupes de logiciels libres, c'est que bah, il n'y a pas forcément toujours la mentalité inclusive. Et t'as beau être compétent, t'as beau vouloir apporter tes compétences, déjà humainement s'intégrer au groupe, c'est pas toujours évident.
Et on va arrêter là, parce que sinon on déborde. Et Monique va nous dire, il y en a marre de votre théâtre national. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile, sur Radio FMR. Pour cette release, l'équipe était composée de Gaël Serres, président ordonnanceur général, Solarus, président chargeur général, et Daskritch, président interrupteur général. Interrupt. La release a été shippée avec les moyens techniques de Radio FMR. Et l'intégralité du programme, les extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, notamment un lien vers le texte de Pierre Bélanger, qui est à la base justement de cette notion d'OS national souverain, fondateur de Skyblog. Donc c'est pas normal si on vous envoie sur un Skyblog. Enfin bon. Oui, non, sérieux. Prochaine release, la semaine prochaine, interactivité muséographique. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons à Monique Blanquet avec un petit peu de retard. Désolé, c'était impromptu, mais ça reste cultivé. Par quoi on remplace le mot login ? Entre-moi là. Bienvenue, non, ça marche pas.
Identifiant.
Ouais. Ouais. Bon. Par quoi on remplace AppGet ? C'est un packager de. Ça ne marche pas.
Obtenir paquet ?
C'est quoi un AppGet ?
On va t'expliquer, mon petit.